Et voilà, on commence à être chez nous. Lech Lecha. Donc Hachem parle à Avram. Et à la fin de Parchat Noach, on a donné les toldot, les engendrements de Terach, et ensuite on nous a dit que Terach, il a donné naissance donc à ses trois fils, Avram, Nahor et Haran. Ensuite, Haran est mort parce que, comme on sait, il a voulu suivre l'exemple d'Abraham, mais là, Nimrod l'a jeté dans la fournaise et lui, il est mort. Et on nous dit que Terach a pris ses deux fils survivants. D'abord, il les a mariés. En fait, il les a mariés à deux sœurs qui étaient leurs nièces. Donc, il a marié Abraham et Nahor à deux des filles de Haran, le troisième frère, celui qui est mort. Donc Avram et Nahor ont des épouses qui sont sœurs. Qui sont leurs nièces. C'est-à-dire, je vous ai dit, tout le système est complètement fermé. C'est-à-dire que Avram va épouser sa nièce. Donc la descendance, ce sera une descendance de Terach. Grand-père. Et Yitzhak qui va épouser Rivka. Rivka, elle descend de Nahor, de l'autre frère survivant. Et les nièces de Rivka, à savoir les filles de son frère Laban, évidemment elles descendent elles aussi de Nahor. Ce qui fait que, je vous l'ai déjà dit, que nous, juifs, en fait, nous descendons tous de Terach. Mais par les hommes comme par les femmes. Tout est terrachien. Et alors pour qu'on n'attrape quand même pas la grosse tête, d'accord, il faut se souvenir, je vous l'ai peut-être déjà dit, qu'il y a des anges négatifs qui ne voulaient pas que la Neshama, que l'âme d'Abraham puisse descendre sur la terre. Donc ils étaient sur le qui-vive pour l'empêcher de descendre. Puis un beau jour, ils se sont dit, au lieu d'être sur le qui-vive pour l'empêcher de descendre, faisons-la descendre et arriver à un endroit où elle n'aura aucune chance de remonter. Donc ils l'ont fait chuter, cette neshama, cette âme-là, dans un corps. Donc, c'est l'âme d'Abraham, enfin il faut d'abord passer par l'âme de Terach, quoi. Arriver dans les corps des couples les plus pourris du monde. On a cherché dans le monde entier les plus pourris et on a choisi Terach et sa femme Amtelai. Et ce sont nos ancêtres. Bon, c'est-à-dire, on n'a pas tellement de raisons de se pousser du col. D'accord ? On descend tous, de tous les côtés, du couple Terach-Amtelai, qui est le couple le plus pourri à cette époque-là. Et donc la Neshama d'Abraham, qui doit transiter par Terach, son père, elle vient de là, elle vient de cet endroit le plus pourri. C'est pour ça qu'ils sont dit, on peut la laisser tranquillement descendre, elle ne remontera jamais. C'est tellement pourri que le Shama, elle n'arrivera pas du tout à vraiment impressionner ou faire son trou dans le monde, en quelque sorte. Ça n'a pas été le cas. Abraham a quand même réussi à s'extraire de cela. Mais on peut dire qu'il y a une partie de cette neshama qui, elle, est morte avec Haran. Tout ça, c'est bien de terre. Et Nahor, lui, à un moment donné, il était retourné, il a été d'abord impressionné par Abraham, après il est retourné à l'idolâtrie. Et Terach aussi, qui avait fait un bout de chemin, justement, on nous dit que Terach, il a pris Abraham, c'est lui qui prend. Si vous prenez le verset juste avant, verset Kaftet, du chapitre 11. Parce qu'à la fin. Vaikach Avram ben Achor Laem Nashim. Donc c'est Terach qui leur a pris des femmes. Il leur a pris Shem Eshet Avram Sarai et Shem Eshet Achor Milka, Bat Aran, Avi Milka et Avi Iska. Donc Aran est le père des deux. Vatei Sarai Akara en la balade. Sarai était stérile. Ok. Vaikach Terach est Avram Beno, c'est toujours Terach qui est ici à l'initiative. Il prend Avram son fils, il prend Lot, le fils de Haran, le frère de Sédé, donc, le neveu d'Avram, Ben Beno, donc, fils de son fils, c'est Terach qui part. Mais Sarai Kalato, il a pris Sarai, sa belle-fille. C'est intéressant, c'est. Elle n'est pas mentionnée en même temps qu'Abraham. Elle est mariée. Quand il dit, il la présente comme Kalato. Elle n'est pas seulement Kalato, elle est aussi sa petite fille. Et c'est Abraham, Beno, la femme d'Abraham. Mais c'est lui qui la prend, c'est pas. Il a pris Abraham et Abraham a pris sa femme. Non, il prend aussi la femme. Vayetsu meitam, vayetsu itam. Et ils sont sortis de Okazdim pour aller à Arza Kenan, en direction de Knan. Vayavou ad Haran. Ils sont arrivés en Syrie, quelque part, à Haran. Ils sont établis là-bas. Et alors, nous, on reprend à Lech Lecha. Où Hachem dit à Abraham, lech lecha me artzecha me olatecha me betavicha, la haret sacher areka, quitte ta maison, etc., et ton pays, mais il l'a déjà quitté. Il a suivi son père, ils sont déjà à Haran. Oui, ils viennent de Mésopotamie, ils sont descendus en Syrie, ils sont en Syrie, pas tellement loin de Eretz Israël, d'accord? Et ils sont bloqués là-bas, ils restent là-bas. Et à ce moment-là, semble-t-il dans le récit, Hachem dit à Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, et ta patrie, ton pays. Ah putain, il a quitté tout ça déjà. Non? Alors, il faut dire, Terach, il a effectivement pris Abraham, etc. Mais ou bien il a suivi un conseil d'Abraham, auquel Hachem avait parlé en amont de cela. Hachem a parlé à Abraham, quitte, etc. Et lui, il a persuadé son père de venir avec lui. Ou alors, il y a eu coïncidence. Abraham devait partir, et Hachem ne l'a pas obligé, en quelque sorte, à abandonner son père, et il a inspiré à son père de venir aussi dans cette direction de Knaan. Certains disent que Terach lui-même, il était originaire de Eretz Knaan. Et quand il était en Mésopotamie, il était étranger là-bas. Seulement, il est devenu très. Il a gravi tous les échelons parce qu'il est devenu fabricant d'idoles, donc quelqu'un qui avait pignon sur rue et très important. mais en fait, il était un étranger. Et quand Abraham a brisé les idoles chez son père, etc., Terah est devenu persona non grata, il a compris qu'il fallait qu'il s'en aille lui aussi. Et où est-ce qu'il est parti? Ben, il est parti pour retourner, d'une certaine manière, d'où il venait. D'accord? Parce que, mais Everanar, ça veut dire, il est de l'autre côté du fleuve. Certains disent qu'il est un descendant de Ever. Ever, c'est un petit-fils de Shem. D'accord? Donc c'est un sémite. Et Terah, c'est un sémite, évidemment. Et il est un petit-fils, il est un descendant de Ever. Et lui aussi, pourquoi il s'appelle Ever? Parce qu'il est lui aussi, mais Everanah, il est aussi de l'autre côté du fleuve. Ce qu'on dit essentiellement d'Abraham. Le monde entier d'un côté, Abraham de l'autre côté. Mais d'après certains Midrashim, ils étaient tous de l'autre côté du fleuve. La famille en question. Donc, ben, quoi qu'il en soit, Abraham reçoit un ordre de tout quitter. Et en réalité, vous savez ce que Rashi a dit sur le dernier verset de la parashat Noach, que Vayu yemeterach hamesh shanim v'mataim shana v'yamot terach v'charan. Finalement, terach est mort à Charan là-bas. Mais quand on fait le compte, on s'aperçoit que Abraham, quand il a quitté Terach, il n'a pas quitté Terach. Ici, on a l'impression que Terach est mort et Abraham l'a quitté Charan. Mais Rashi vend la mèche et Rashi dit que, en fait, Abraham a quitté son vieux père. Il l'a abandonné son père. Et Terach, qui avait été acquis aux idées d'Abraham, quand Abraham l'a abandonné, il s'est retourné vers Nahor, qui lui était resté idolâtre, et il est retourné à l'idolâtrie. Et on n'a pas voulu dire expressément dans la Torah qu'Abraham a fait cette chose quand même peu recommandable d'abandonner son vieux père. Alors on l'a caché en ne disant pas, en parlant de la mort de Terach, alors que dans la chronologie, Abraham se quitte avant que Terach soit mort. Mais la Torah elle l'a caché. Si on fait les comptes, tout le monde le trouve, et Rashi l'a vendu la mèche. Et comme tout le monde lit Rashi, donc tout le monde le sait. C'est pas écrit dans la Torah, mais tout le monde le sait parce que Rashi le dit. Alors là, le Rav Amouk, là, dans la voie de la Torah, il ramène Hirsch, évidemment. Et Hirsch dit la chose suivante. Hirsch pose la question, est-ce que le judaïsme doit être de son siècle? Est-ce qu'il faut un aggiornamento pour mettre le judaïsme en phase avec le siècle? On dit la première parole, l'Ech Lecha, représente la plus énergique protestation contre une pareille pensée. La toute première manifestation d'Abraham était à l'opposé des conceptions de ses contemporains. Au milieu d'un monde perverti, idolâtre, immoral, voué au culte de la forme brutale et tendant à effacer jusqu'au dernier vestige du nom d'Hachem, Abraham, abandonnant volontairement toutes les affections familiales et sociales si chères aux hommes, en fait, il abandonne tout. Il abandonne, Hachem lui ordonne de tout abandonner, mais en fait, il a aussi abandonné son père. Il se fait l'apôtre d'Hachem et lance sa protestation contre les idoles. Et ça se demande du courage, la conviction profonde de la véracité de son propre message, l'opiniâtreté qui est le trait saillant du peuple juif d'Hirsch. Donc quand il lui dit d'abandonner son pays, il lui dit d'abandonner le pays sur lequel il était déjà arrivé, c'est-à-dire à Haran, qui est un pays bourré d'idolâtrie aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Quitter un pays idolâtre pour aller dans un autre pays idolâtre? Si ça se trouve, il y avait plus d'idoles à Canaan qu'à Okazdim. Mais visiblement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, le pays de Canaan était plus à même de recevoir le message d'Abraham. Je ne sais pas exactement en quoi il était plus à même. On peut dire, je vais donner un peu d'éléments, le pays de Canaan, il porte le nom de Canaan qui est le petit-fils de Noach. Le Canaan, c'est celui qui a dénoncé le fait que le père que Noach s'était enivré, qu'il était tout nu dans sa tente, etc. Et c'est lui qui est allé chercher son père, et c'est comme ça qu'ils ont décidé ou de le sodomiser ou de le castrer pour qu'il n'ait pas un quatrième enfant. Parce que Ham, en tout cas, il ne voulait pas qu'il y ait un quatrième enfant parce que les trois fils de Noach se sont partagés le monde. S'il y avait un quatrième enfant, il fallait que chacun donne une part pour lui constituer une quatrième part. Donc ils ont rendu Noach inapte à avoir un enfant. Ou bien physiquement inapte, ou bien du point de vue de la Kedusha, étant donné qu'ils l'ont sodomisé, ils ne pouvaient plus avoir un enfant au niveau où il fallait, quoi, quelque part. Le profaner, en quelque sorte. Et alors, ce pays de Canaan, il s'appelle comme ça parce que quand ils se sont partagés le monde, les trois fils de Noach, la terre que nous appelons la terre d'Israël, elle faisait partie du domaine de Shem. C'est les Sémites qui en ont hérité. Mais les Cananéens, qui sont donc des Hamites, ont fait la guerre et ils ont gagné la guerre. Ayant gagné la guerre, ils ont pris possession de la terre. C'est ça les règles de la guerre. Un peuple qui gagne la guerre, il prend la terre en question. Il domine, c'est toujours comme ça. Il occupe la terre en question. Et donc le pays s'est appelé Eretz Canaan. Mais en fait, ultimement, oui, originellement, il appartenait à Hachem. Donc quand les Bnei Israël vont le récupérer, par les mêmes lois de la guerre, ils vont faire la guerre, ils ont gagné la guerre, alors ils prennent le territoire. C'est pour ça que c'est un peu étrange d'avoir ces premiers mots de Bereshit où ils nous traitent de voleurs, etc., parce qu'on a pris le territoire par la guerre, mais les Cananéens nous traitent comme ça. Mais eux-mêmes, comment ils ont pris ce territoire? Par la guerre, les lois de la guerre. Donc si, ou bien on dit que les lois de la guerre sont fausses, quoi, quelque part, un pays qui prend, alors dans ce cas-là, eux, ils n'avaient pas à prendre la terre. Elle appartenait à Hachem. T'as gagné la guerre, alors je sais pas, prends les trésors, mais va-t'en et rentre chez toi. N'occupe pas le terrain. Eux, ils ont occupé le terrain. Les Israël ensuite sont venus, ils ont occupé le terrain. Maintenant, le fait que un territoire soit plus ou moins apte à recevoir le message de la Torah, le Rav Dessler, il a une théorie comme ça. Rav Dessler dit que c'est pas un hasard si la façon d'étudier la Torah comme on l'étudie dans les yeshivot lituaniennes est née en Lituanie. Le territoire et la mentalité des gens là-bas s'y prêtaient ce raisonnement froid, très rationnel, par opposition à la Galicie polonaise, pas la Galice espagnole, là-bas, où les gens étaient tempérament beaucoup plus chaud, etc., ça donnait la face qui doute. Lui, il a une théorie que les juifs allemands, c'était la Prusse, c'est clair et net, c'est très prussien. Et Hirsch, on entend la Prusse quoi, quand on lit le devoir, la notion de devoir, les plichts. Donc il a une théorie comme ça, c'est Rav Dessler. Et visiblement, il y a effectivement des territoires qui se prêtent mieux à certaines choses qu'à d'autres. Pas simplement les cultures c'est évident, mais du coup, si on cultive plutôt ceci que cela, alors on se construit avec plutôt ceci que cela, ça donne aussi une mentalité, je veux dire, la mentalité des buveurs de bière allemands ou anglais n'est pas la même que les buveurs de vin français, italiens, espagnols, etc. C'est d'autres... L'Israël, c'est quand même le pays, c'est un pays méditerranéen de ce point de vue-là. C'est-à-dire, on est un pays du vin, de l'olive, l'huile d'olive et du blé. Si on était japonais, je ne sais pas, on serait le pays du saké, de soja, etc. Bon, il y a peut-être certains qui diraient, moi j'aurais de préférer que Israël soit du côté de l'Écosse à cause du whisky plutôt que du vin, tu vois, ça dépend, hein, chacun ses choix. C'est bien clair que l'anisette, etc., bon, c'est pas une liqueur pour les Suédois ou les... Même la terminologie, anisette. Et c'est pas une terminologie pour quelque chose de sérieux. C'est un truc léger, non?
C'est chantant.
Ah non?
C'est chantant.
Chantant et léger. Comme ça, c'est... Enfin... Bon, voilà, ça c'est donc cette idée qu'il y avait quelque chose à gagner quand même, à aller de. Ou au Kazdim en Knan, parce que sinon, idolâtrie pour idolâtrie, pourquoi aller là plutôt que là? C'est-à-dire, Abraham, il reçoit des ordres. On lui dit de quitter, on lui donne le point de départ, on ne lui donne pas le point d'arrivée. Hachem lui dit le pays que je te dirai, que je t'indiquerai. Et quand il doit partir pour Akedat Yitzhak, c'est la même chose. Tu t'en vas, je te dirai. Donc, non seulement il faut quitter un endroit où on est installé, etc., pour partir, mais tu ne sais même pas pour où tu pars. Tu peux pas regarder sur Google Maps comment on y arrive, rien du tout, c'est pas marqué. C'est pas. À Haran, là où il s'était arrêté, Abraham et Sarah ont fait beaucoup de prosélytes, beaucoup de guérim. Abraham s'occupait des hommes, Sarah des femmes. Et là, quand ils ont quitté pour aller en Canaan, ils prennent un effet chercheur à Soub et Haran. Ils ont aussi pris les gens qu'ils avaient convaincus et convertis, donc. Ils les ont amenés aussi avec eux, emmenés avec eux. Ensuite, Hachem a commencé à parler avec Abraham. Il lui a dit, voilà, ce pays-là, je vais te le donner, à toi et à tes descendants. Alors, ici, Abraham fait la même chose que ce que Lot a fait. Quand Hachem lui fait une promesse, il construit un misbéach, un hôtel pour Hachem, qui s'est dévoilé à lui. C'est parce qu'Hachem lui annonce quelque chose de extraordinaire, alors il exprime sa reconnaissance. Et alors, c'est marqué, donc, dans le verset 8, Vayet Aolo Bethel Miyam Ve'ai Mikedem, il a planté sa tente entre Ai et Bethel. Vayven Sham Misbeach Lachem, Vayikra Beshem Hashem. Et littéralement, ça veut dire, il a crié le nom d'Hashem. Ça veut dire Vayikra Beshem Hashem. Rachidi, il a prié. À cet endroit-là, à Haï, dans la suite, au moment de la conquête du pays, vous vous souvenez, les Bnei Israël, quand ils faisaient la guerre pour conquérir ce pays de Canaan, et c'était la même chose par la suite quand ils ont fait les guerres pour lutter contre les Perses qui voulaient les tuer au temps de Haman. La Torah elle précisait toujours, Hachem leur disait, mais vous ne toucherez pas au butin. Faites la guerre, ne vous prenez pas le butin. Touchez pas au butin. Pourquoi ? Parce que quand on fait une guerre et qu'on prend un butin, alors il apparaît toujours que la guerre était pour le butin. Même si la guerre était pour d'autres raisons, le butin prend toute la place. Ah, on l'a fait. D'ailleurs, on voit très bien que même dans la Torah, c'est très étrange. Vers la fin, on va nous dire qu'on va faire la guerre contre Moab, etc., là-bas, on nous rapporte combien ils ont ramené de ci et de ça, et des troupeaux, et du cuivre, et de machin. Qu'est-ce que ça vient nous faire, tout ça? Et pourquoi il faut faire toute une histoire? Puis ensuite, on te dit comment ils ont partagé, et combien on a donné de maaser, de tout ça. On ne comprend rien du tout à quoi ça sert, tout ça. En tout cas, voilà que Abraham est à cet endroit-là, et Abraham sent, ou il sait, qu'à cet endroit-là, les Israël vont fauter. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où le fameux Achan, celui qui a pris du butin, celui qui a transgressé, qui a pris du butin, c'est là qu'il l'a pris. Alors, les Israël ont été en quelque sorte bloqués à cet endroit-là, et Abraham avait prévu le coup en quelque sorte, et il a prié pour que les Israël ne soient pas définitivement bloqués. D'une certaine manière, les Israël se sont disqualifiés. Dès lors qu'il y a même ne serait-ce qu'une personne qui fausse complètement le sens de la guerre, bon, c'est fini, c'est... On apparaît comme simplement des gens qui font la guerre pour de l'argent. C'est comme si c'était des mercenaires, etc. Ils font de l'argent. Ils veulent prendre de l'argent et tout. Faire la guerre pour ça. La guerre, elle peut être en vérité pour d'autres raisons. Mais à partir du moment où... Voilà. Alors Abraham a prié pour qu'il ne soit pas bloqué. On verra plus loin que, par exemple, dans la fameuse guerre d'Abraham, qui a fait la guerre contre... Vous savez, après la guerre, il y a eu une guerre entre les cinq rois et les quatre rois qui se sont révoltés. Les cinq contre les quatre, et dans lesquels il y avait le roi de Sodome, etc. Et Abraham les a poursuivis, a fait la guerre. Et puis quand il est arrivé à Dan, il aurait dû les poursuivre et les éradiquer complètement. Personne ne serait arrivé à Damas, je veux dire. Mais Abraham, il n'a pas pu continuer à Dan. Pourquoi ? Parce qu'à Dan, il allait y avoir les veaux d'or. Jéroboam allait installer les deux fameux veaux d'or qu'il a installés après le schisme. Le roi Jéroboam avait installé, vous vous souvenez, au nord et au sud, il a installé des veaux d'or. C'est clair pour tout le monde ? Vous savez ce que c'est ? Alors il faut dire si vous ne savez pas. qui s'est passé, c'est la chose suivante. Bon, c'est important. Comme vous savez, à la suite du roi Shlomo, normalement, c'est son fils Roboam pour les intimes, qui a succédé. Et les anciens, ils sont allés voir ce fameux Roboam, et ils lui ont dit, écoute, ton père, il nous a épuisés avec les impôts qu'il a prélevés. Bon, il a pris, mais comme il a construit la splendeur, le Beth-Amigdash, les palais, etc., ok. Mais maintenant, il faut que tu diminues les impôts, on ne peut pas suivre. C'est fini, la construction, la phase d'expansion, etc., est terminée. Il faut que tu diminues. Alors, il a dit, non seulement je ne vais pas les diminuer, mais je vais les augmenter. Alors, Hachem n'a pas accepté, et on a enlevé à ce fils de Shlomo HaMelech, petit-fils de David, qui était roi sur les 12 tribus, on lui a enlevé, si vous voulez, 9 tribus et demie des 12. Et lui, il n'est plus resté qu'avec Yehuda Binyamin et la moitié de la tribu de Menaché. Ce qui va devenir ce qu'on appellera par la suite le royaume de Juda, royaume de Yehuda. Et celui qui va s'appeler le royaume d'Israël, c'est-à-dire toutes les autres tribus, 9 tribus et demie, ont été données à un bonhomme qui s'appelle Yerovam. Ça ressemble un peu. C'est le Jéroboam, que tout le monde connaît pour le champagne, etc. Donc, il s'appelle Jéroboam. Et alors, on n'a aucune idée du bonhomme, mais il devait être un super tzaddik, parce qu'il n'est pas de la lignée de David, et on lui donne la royauté sur la quasi-totalité du peuple. Alors, donc il devait être une superstar. Mais quand on lui a donné cela, il a dit, ok, mais il y a une mitzvah de pèlerinage. Donc 3 fois par an, mes sujets, ils vont aller à Yerushalayim au Beth Amikdash. Et la porte à côté du Beth Amikdash, c'est le palais de Roboam. Ils pourront pas aller au Beth Amikdash et cracher sur Roboam, mais pas. Ils vont être obligés de faire une espèce de mini allégeance, en tout cas des politesses. Et je veux pas de ça. Alors Hachem lui dit, mais c'est pas important, mais ça veut bien pas l'importance, ça. Non, je veux pas. Alors Hachem lui a dit, écoute, je comprends. Alors je te promets que si tu cèdes, alors moi, dit Hachem, David et toi, nous nous promènerons ensemble dans le Gan Eden. C'est-à-dire qu'on lui a promis à ce type qu'il serait sur le même plan que David, c'est-à-dire 2 générations au-dessus de lui, et tout seul avec Hachem. Alors il a dit, mais qui va marcher devant? Hachem lui a dit, si tu demandes, c'est pas toi. Et non, je ne viens pas, je ne vais pas. Parce que si tu me demandes de m'écraser dans ce monde-là, alors dans le monde à venir, il faut que ce soit moi qui sois en tête. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quand les bnei Israël sont autour d'Hachem, ils sont en cercle autour de lui. Donc il y avait 2 atomes autour deux électrons autour du noyau à Kadosh Baruch Hu. Donc personne n'est devant et personne n'est derrière, puisqu'ils sont sur un cercle. C'est pour ça qu'il a dit, si tu demandes, c'est pas toi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a fait murer les routes qui mènent à Yerushalayim, fermer les routes. Et il a décidé de faire des contre-fêtes de pèlerinage. Alors, qu'est-ce qu'il avait décidé de faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Un Beth Amikdash, il n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de faire un deuxième Beth Amikdash. Donc, il y a celui-là, on ne peut pas en faire un autre. Alors, il a décidé Rappelez-vous, le veau d'or, quand il a été fabriqué, pourquoi c'est un veau qui est sorti? Il est sorti, bon, concrètement, c'est sorti parce que il y a quelqu'un qui a jeté une plaquette d'or dans le creuset dans lequel Aaron avait fait fondre tout l'or. Et sur cette plaquette, Moshe Rabbeinu avait écrit « Allez, Shor, monte, taureau », parce que le taureau, le veau, le taureau, c'est l'emblème de la tribu de Yosef. Et donc, il a voulu faire remonter Moshe a voulu faire remonter les ossements de Yosef, puisqu'on avait promis à Yosef que quand on sortirait d'Égypte, on sortirait son cercueil et qu'on irait l'enterrer en Eretz Israël. Donc, les Bnei Israël ne pouvaient pas quitter l'Égypte. Alors, Paro, qui savait ça, il a fait sceller le cercueil de Yosef au fond du Nil. Mais la fille d'Asher, Sarah d'Asher, elle a su où c'était. Et Moshe a jeté à ce moment-là la plaquette et le cercueil est monté. Et Moshe ne s'est pas occupé de la plaquette. Il y a un petit malin qui l'a ramassé. Et quand il a fallu ramasser l'or, il l'a jeté. Et donc il y a un veau qui est sorti, c'était Alei Shor. C'est pour ça que c'est un veau qui est sorti. Mais le veau, c'est pas une idole. C'était l'emblème de la tribu de Yosef. Et ça ne pouvait être, en parenthèse, que Yosef, parce que il fallait remplacer Moshe. Parce qu'ils ont dit, Moshe, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, il est en retard, donc c'est pas possible qu'il soit en retard, donc il a disparu. Ils ont voulu remplacer Moshe, mais remplacer Moshe, ça veut dire trouver quelqu'un ou quelque chose dans lequel on puisse dire c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Or, il n'y a que Yosef qui pouvait être qualifié de nous avoir fait sortir d'Égypte, dans la mesure où la sortie d'Égypte, elle a été promise par Hachem à Abraham. Dans la fameuse, dans le Brit Ben Abtarim, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va voir bientôt, dans l'alliance entre les morceaux, Hachem a promis à Abraham, Hachem lui a donné le choix, mais enfin, il a promis à Abraham que ses enfants seraient esclaves, mais qu'ils s'en sortiraient avec un grand butin. Et, par conséquent, la sortie d'Égypte n'est pas, ce que je vous ai déjà souvent raconté, la sortie d'Égypte n'est pas la réparation d'une tuile qui nous est arrivée, un accident qui est arrivé, on s'est retrouvé esclave en Égypte, il fallait bien en sortir. Non. On devait sortir d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, il fallait d'abord qu'on y soit arrivé. Et que sortir, alors que les autres ne voudront pas nous laisser sortir, c'est ça la condition d'esclave. Et donc, qui est-ce qui nous a descendu en Égypte? C'est Yosef. C'est Yosef quand il a été vice-roi, il a fait donc venir tout le monde. Jacob ne voulait pas, mais il a dû descendre. Et donc, la descente en Égypte, c'est le commencement de la sortie. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Yosef, c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Il est au commencement, c'est Moshe qui a terminé. Mais qui est-ce qui a commencé la sortie d'Égypte? C'est Yosef. Et donc c'est pour ça qu'on pouvait investir les emblèmes de la tribu de Yosef, de la tâche, c'est-à-dire, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. C'était pas un mensonge. De n'importe qui d'autre, n'importe quoi d'autre, ça marchait pas. Ils pouvaient pas dire à Aaron, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Ils savaient bien que c'est pas Aaron. D'accord? Il y avait personne, d'homme qui puisse remplacer Moshe. Et donc, puisque tous les gens qui étaient là, ils sont sortis sous la direction de Moshe, ils ne peuvent pas dire c'est pas qu'ils nous ont fait sortir. Donc il n'y a que l'emblème de... Et donc quand Yerovam, il a cherché qu'est-ce que je vais faire, lui il était de la tribu d'Ephraïm. Ephraïm c'est Yosef, c'est le fils de Yosef. Donc il a décidé, on va faire des fêtes pour l'emblème de la tribu. Donc on va placer les emblèmes de la tribu. Et comme la tribu d'Ephraïm était très nombreuses, il a mis au nord et au sud des veaux d'or. Et c'est ça qu'Hachem lui a dit, c'était pas des idoles du tout, c'était les emblèmes de la tribu. C'est comme si on va faire enlever du drapeau, quoi. Personne va dire que quand on lève le drapeau, c'est l'idolâtrie, sauf moi. Moi, je dirais que c'est un peu l'idolâtrie, mais bon. Ok. Mais enfin, c'était pas vraiment l'idolâtrie. Mais Hachem lui dit, si tu fais ça, ça va devenir l'idolâtrie. Et lui, c'est un tzaddik, on vient de lui donner 9 tribus et demie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transgresse. Hachem lui a dit, ne le fais pas, il fait quand même. Il va devenir le roi le plus idolâtre. Ça, c'est Yéroba. D'accord? Et les Bnei, pourquoi je vous raconte tout ça? Et les Bnei Israël, quand Yéroba a installé un des veaux d'or, il a installé au nord, à Dan, la tribu de Dan, il y a eu de la Volazara, Abraham n'a pas pu continuer de poursuivre les ennemis. Il était bloqué par ce qui allait se passer à cet endroit-là, idolâtrie. Il n'a pas pu aller au-delà. Ça veut dire quelque part, cette idolâtrie qui va avoir lieu des siècles plus tard, mais la trace prémonitoire, enfin, quand on n'est pas vraiment dans le temps, peu importe, que ce soit avant, après, Abraham ne pouvait pas. Il n'a pas pu poursuivre les ennemis, il n'a pas pu les éradiquer. S'il avait pu éradiquer les ennemis, l'histoire aurait été changée. Il aurait éradiqué les Cananéens. Et on n'aurait pas eu besoin de faire la guerre contre les Cananéens. En fait. Donc là, voilà, Abraham part, il construit cet hôtel. Alors, encore une chose, il faut dire que, qu'est-ce qu'il faisait? Comme le mec d'Avar, il dit, on ne peut pas dire qu'il a mis des corbanotes, c'est qu'il a appelé les corbanotes au nom d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? La avoda Hachem, à ce moment-là, ça consistait à mettre une stèle debout, c'est-à-dire une pierre verticale, sur laquelle on versait de l'huile. Donc on huilait en quelque sorte la pierre et on proclamait le nom d'Hachem. Et Abraham, devant cette pierre-là, il criait le nom d'Hachem. Enfin, il crie le nom d'Hachem. Alors, il faut, rappelez-vous, ça, la stèle, à ce moment-là, c'est considéré comme quelque chose de très très bien. Et dans le Sefer Dvarim, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu considère une stèle comme une abomination. C'est un cas de figure où dans la Torah elle-même, il y a eu une espèce d'évolution, si vous voulez, mais l'évolution, pourquoi c'est ce qui était loué, qui était bien, devient mauvais? Parce que les goïms ont fait la même chose. Comme les goïms faisaient exactement la même chose avec leurs idoles, de mettre des stèles verticales et de l'huiler, etc., alors c'est devenu abomination. Vous me direz, une question quand même. Les goïms, ils ont fait des sacrifices aussi sur leurs autels. Pourquoi on n'a pas interdit de faire des autels avec des sacrifices de la même manière? Je ne sais pas vraiment répondre. En tout cas, ça on l'a interdit. C'est un cas d'évolution à l'intérieur de la Torah. Il y a des gens qui disent que la Torah elle ne bouge pas, c'est pas vrai. Je vais montrer que ça bouge. Dans la Torah, ça a bougé. Donc Hachem vient de lui promettre cette terre. Et on arrive au verset Yud, ce fameux chapitre 12. Vahi ra'av ba'aretz. Famine dans le pays. Famine dans le pays. Ce pays qu'Hachem lui a promis être le pays où coule le lait, le miel, etc., qu'Hachem vient de lui donner. Première expérience d'Abraham avec le pays en question, famine. Famine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, qu'est-ce qui... La Torah elle dit que la famine qui a éclaté là, c'est la famine la plus terrible qu'il y aura jamais eu, qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y aura jamais. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Est-ce qu'il doit. Il aurait un mot qui dit qu'est-ce qu'il faut faire? Douter de son Dieu, récriminer. Et il ne songe pas une seconde. Et il accepte cette nouvelle épreuve avec la foi absolue du juste. Emouna Shlema, comme on dit, Emouna parfaite. Il s'incline et il agit selon la règle du bon sens, citée également par la Gemara, dans le Bakama, lorsqu'une famine sévit, émigre à un autre endroit, même lorsque celui-ci n'est pas sans danger. Abraham ne juge pas opportun de rester en Canaan et d'y attendre un nouveau miracle pour le sauver de la famine, lui et les siens. L'homme qui s'est vu miraculeusement sauvé de la fournaise ardente dans laquelle Nimrod l'avait jeté, où il s'était donc, lui-même s'était jeté pour l'amour d'Hachem, il ne veut pas compter sur un miracle. Donc il prend toutes les dispositions rationnelles pour échapper à la calamité. Il préférera même plus loin, au moment du danger qui menace Sarah, avoir recours à un demi-mensonge plutôt que de rester passivement dans l'expectative d'un miracle providentiel. Donc, cette explication, c'est l'explication de Rabbi David Kimri, c'est l'explication du Khatam Sofer, l'explication du Ora Chaim, Rabbi Menatar. Donc, très positif. Mais le Ramban, Nachmanid, il dit que c'est désastreux, ce manque de confiance d'Abraham en Hachem. Le Maral, il contredit le Ramban, mais enfin le Ramban est le Ramban. Et le Ramban dit que par la faute d'Abraham, c'est la faute d'Abraham si on a dû descendre en Égypte, que c'est un scandale que Abraham n'a pas pu tenir. Le problème, c'est, on présente la famine, on va tenir, on va tenir, mais il y a notre camarade Shem, qui vivait à cette époque-là, et qui lui est resté. Donc on pouvait rester. Le Rabban, il dit, c'est un désastre. Non, Elimelech, il est parti parce que, oui, comme il était riche, il a pensé que les gens viendraient chez lui. Abraham n'est pas parti parce qu'il a pensé que les gens viendraient chez lui, il est parti parce qu'il pensait qu'il n'aurait plus à manger. Ok, mais Shem, il est resté.
Il subissait la famine, lui aussi.
Ah non ?
Il subissait la famine, lui aussi.
Oui, et pourtant, il est resté.
Il avait des réserves. Peut-être sans avoir vu, il n'était pas déjà, il avait des réserves, mais bon,
Bah, toi, tu penses comme. Tu choisis ton camp, hein?
C'est pas joué. Parce qu'il prend l'initiative de lui-même alors qu'il a. Bon, il y a Rachid qui dit que bon, c'était pour qu'il soit éprouvé. Bon, Rachid, il va le voir.
Bah, il y a une épreuve. La question, c'est savoir est-ce qu'on dit qu'il a réussi ou il a failli dans cette épreuve? Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait? Comme ils disent, c'était rationnel, tout ce que tu veux. C'est joli, mais le Ramban dit, c'est un scandale. Pauvre de nous, avoir un patriarche comme ça. Pardon ?
Excusez-moi, parce qu'en fait, Shem est resté, donc c'est...
Non, il dit pas à cause de Shem qui est resté, il dit, c'est un scandale, il a été éprouvé, il aurait dû rester.
Mais, sauf la mise dans l'esclavage, elle était programmée ?
C'était pas... Non, elle est programmée, pas encore. Non, on devait descendre, si vous voulez, on devait descendre c'est pas encore décidé, mais on devra descendre en Égypte. Dans Brit Benaptarim, qu'on n'a pas encore vu ici, Hachem va proposer un deal à Abraham. Il dit, est-ce que tu préfères le Gehinnom pour tes descendants ou tu préfères l'exil? Je sais pas très bien qu'est-ce que c'est ce truc où on choisit entre la peste et le choléra. Mais en tout cas, il a choisi l'exil. Choisi la solution exil.
C'est
C'était quoi l'autre? Le Guéhinnom.
Le Guéhinnom, mais je ne sais pas ce que ça voulait dire. C'est quoi? On a passé par le Guéhinnom? Je ne sais pas. Je sais pas ce que ça aurait voulu dire. Et si c'est pour dire qu'ils vont mourir, ok, c'est pas un choix. Et le Ramban dit, en plus, c'est pas glorieux parce que il va mettre sa femme en danger. Ben Sarah, elle va être raptée par les sbires de Paro. Elle est très belle. Et alors, en plus, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils voient une belle femme, ils la prennent pour ça, pour Paro. Il ne peut pas y avoir une belle femme en Égypte qui n'atterrisse pas dans le harem de Paro. Donc, Sarah, elle va atterrir dans le harem de Paro. Alors, il y a toutes les chances. Mais Abraham lui a dit, écoute, rends-moi un service. Dis que tu es ma sœur. Bon. En fait, elle était pas sa sœur, mais la notion de frère et sœur et la notion de neveu et nièce, dans la Torah, on voit très bien que... Il dit aussi à Lot qu'il est son frère. Et Lot, c'est aussi son neveu, c'est le frère de... Lot est le frère de Sarah. Donc Lot est son beau-frère et il est son beau-frère et son neveu. Et il lui demande de dire qu'elle est sa sœur. Pourquoi? Parce que si elle dit qu'elle est son mari, qu'elle est sa femme, ils vont me tuer, simplement. Ils veulent la femme, donc ils vont me tuer. Ils vont pas... Paro, il va pas vivre avec la femme de quelqu'un d'autre. Donc le mari, il est mort. Enfin, Louis XIV, il faisait à peu près la même chose. Hein. Quand il voulait quelqu'un, il voulait une femme... Le mari, il avait le choix. On lui donnait ou bien une province, ou un évêché, ou un truc comme ça, ou beaucoup d'argent, et tu la fermes, tu disparais, et je prends ta femme. Ou si tu n'es vraiment pas d'accord, tu peux mourir accidentellement. Bon, c'était Louis XIV, Louis XV, c'était des garçons, donc il avait un autre problème. Donc c'est ça, le roi Soleil, enfin, terrible. Alors, le Ramban, il dit, mais c'est terrible, ça. Il a exposé sa femme. Et Sarah, effectivement, elle est dans le harem. Et pourquoi il lui dit, t'es ma sœur? Parce que dans ce cas-là, si t'es ma sœur, ils vont me couvrir de cadeaux pour que j'accepte, que je leur donne ma sœur, puisque c'est moi l'homme de la famille, donc ils vont me couvrir de cadeaux. Les mâmes, t'avli, pas avouer grâce à toi. C'est pas terrible, hein. C'est difficile de lire ce genre de verset. Je sais pas, peut-être vous, ça ne vous dérange pas. Moi, je trouve ça un petit peu difficile à lire.
Il se protège lui, finalement.
Ouais, c'est ça, c'est ce que dit le Ramban. Il expose sa femme, quoi. Quelque part, il... Et puis, ben bon, il y a moitié mensonge, parce que bon, mais ça, c'est pas terrible. D'accord, c'est presque sa sœur. Mais l'exposer, c'est-à-dire... Alors, en plus, il y a la théorie, c'est comme ça, c'est que s'il me tue pour te prendre, personne n'ira te chercher dans le harem. Si, par contre, je suis encore vivant, je pourrais éventuellement te récupérer. Peut-être que j'arriverai à te racheter, ou je ne sais pas quoi, quelque chose. Je serai dans le harem, mais peut-être... Bon, si je suis vivant, je peux essayer de faire quelque chose. S'ils m'ont tué parce que c'était comme ça qu'ils allaient, tu seras toute seule au monde, dans le harem, donc t'es jusqu'à la fin de tes jours, dans le harem en question. Donc Sarah est dans le harem suite à la démarche d'Abraham. Quand ils arrivent là-bas, c'est bien ce qui se passe. Ils demandent, ils voient la femme, elle est très très belle. En fait, tout le monde s'étonne, mais pourquoi ils l'ont pas, les officiers, pourquoi ils l'ont pas pris? Il y avait une belle femme. Ils avaient très très peur de Paro. Si Paro apprenait qu'il y avait une belle femme, ils l'ont prise pour eux, enfin, ils ont abusé d'elle, etc., et ils l'ont pas ramenée au harem, il survivrait sûrement pas. Donc, ça l'a protégé des sbires de Paro. Ça l'a pas protégé, elle arrivait chez Paro dans le harem. On a fait du bien à Abraham. Bon. Alors Sarah, elle a été protégée. Bon, elle va être protégée. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que toute la maisonnée de Paro et toute la maisonnée, ils vont être frappés de lèpre. Donc il ne pourra rien faire. Donc ils comprennent bien qu'il se passe quelque chose. En Égypte, comme ça, tous les nobles autour de Paro et Paro, y compris, depuis que cette fille elle est entrée dans, cette femme est entrée dans le harem, ils sont tous lépreux. Alors, il va appeler Abraham et il va lui dire qu'est-ce que tu m'as fait là? Finalement, il va lui demander à Sarah, Paro, qu'est-ce qu'il est pour lui Alors, elle va avouer que c'est mon mari. Alors, Paro, il va dire à Abraham, mais qu'est-ce que tu m'as raconté comme salade? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Et Abraham, on va voir ce qu'il lui dit. Mais en attendant, c'est écrit, regardez le verset Yudzaïn 17. Vaynaga Hashem et Paro, Negaim Gdolim. Hashem a frappé Paro de grandes lèpres, enfin plaies de lèpre. Vet Beto, lui et toute sa maisonnée, donc tout le monde. Aldvar Sarai, pourquoi ils ont été frappés? À cause de Sarah. Mais le verset, il ajoute Sarai Eshet Avram, la femme d'Avram. Ok, ça fait un certain bout de temps qu'on sait que c'est la femme d'Avram. Donc pourquoi ici, il est marqué que Sarai, elle s'appelle encore Sarai avant le changement de nom, qu'elle est la femme d'Avram? On a l'impression que c'est par le mérite de Sarah que Paro a été frappé. Mais tous les commentateurs demandent, mais c'était pas nécessaire de dire qu'elle est la femme d'Abraham. Est-ce que Sarah et son mérite ne sont pas suffisants pour qu'il y ait ce miracle? Il faut mentionner qu'elle est la femme d'Abraham. Les commentaires parlent de ça, et c'est pas clair exactement pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il faut mentionner que Sarah était la femme d'Abraham ici? Ils disent quelque chose dans le stone là? Les Américains?
Pour parler du mérite d'Abraham.
Oui, d'accord, mais c'est donc la question, c'est pourquoi on a besoin du mérite d'Abraham? Sarah n'a pas assez de mérite d'avoir accepté tout ce qu'elle a accepté ici? C'est pas un mérite suffisant? Elle était une tzadikette aussi, je veux dire. Elle a converti les gens comme lui, il a converti les hommes, elle a converti les femmes. Quel est le problème ici?
C'est le mérite des deux.
Oui, bon. Mais pourquoi on a besoin des deux? Elle a un mérite tel, c'est elle qui.
Qui prend le courant.
Oui.
Pardon, c'est Ramban qui.
Le Ramban, lui, tu vois bien ce qui arrive, je veux dire.
Pas récurrent dans la tradition et dans la culture que la femme dépend de son mari, c'est toujours la femme d'eux. C'est pas récurrent dans sa.
Oui, mais ici, pourquoi on a besoin de le dire ici? Elle dépendait pas de lui, je veux dire.
Pour marquer le fait que Abraham était supérieur, ou était le maître absolu, on sait rien, qu'on peut programmer.
Oui, enfin, Ramban, si vous lui demandez son avis. Oui, parce que la question, l'idée, c'est comme ça, un peu ce que dit le Kliyakar à la fin, la deuxième réponse, c'est que, au fond, qu'est-ce que faisait Paro? Il ne faisait rien de mal. Il y avait une femme, il l'a prise. Bon, il ne l'épouse pas, c'était pas. Voilà, il aura des rapports avec elle, point barre, c'est tout. Alors, le Kriyakar, il dit que Paro, il aurait eu tendance à ne pas la croire quand elle dit qu'elle est la femme de... quand elle l'a dit. Parce que Paro, il se dit, elle dit ça parce que elle veut pas que j'ai des rapports avec elle sans que je l'épouse. Donc elle dit qu'elle est une femme mariée et qu'un roi, il ne peut pas se permettre de prendre la femme de... C'est pas son kavod de prendre une femme mariée. Donc, si toi, tu m'avais dit qui elle était, je t'aurais cru. Elle, je la crois pas parce que je pensais qu'elle vous laisse défiler. Mais toi, si tu me dis qu'elle était ta femme, je t'aurais cru directement, tu aurais pu me le dire. Ce qu'il lui dit, il dit, Lama, pourquoi tu m'as dit, va écrire parole l'Abraham et Omer, Mazot Asitali, qu'est-ce que tu m'as fait là? Lama Loigatali qui je trahis. Pourquoi tu m'as pas dit, tu m'as pas raconté qu'elle était ta femme?
Parce que elle sauvait sa vie alors que lui, il la risquait.
Ah non, lui, il est?
Lui, il la risquait. Ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, mais Paro, il lui dit pas ça, parce que Paro, il reconnaît pas que quand on veut quand je veux une femme, et sbire, il trucide le mari, et comme ça je peux prendre la femme. Il dit, je t'aurais cru. Elle, j'aurais peut-être pas cru. Mais elle, j'ai tendance à pas la croire, parce qu'elle essaie de défiler. Et si toi, tu me le dis, je t'aurais cru. Donc, tu aurais pu me dire, on aurait évité tout ça. Paro, il s'est plaint. Il a dit... En fait, je ne l'ai pas pris que pour sa beauté. Je l'ai prise aussi parce qu'elle était ta sœur. Que pour moi, c'était un certain kavod, comme toi, tu es un grand chacham, d'épouser la sœur d'un chacham, pour moi, c'est un certain kavod. Donc, en réalité, je l'ai prise pour ça, aussi. Mais maintenant qu'il s'avère qu'elle est ta femme et pas ta sœur, bon, alors je ne la veux pas. Donc, c'est pas qu'il dit, moi, je la veux, c'est pas qu'on l'oblige à la rendre. Il dit, moi, je la veux pas, je l'aurais prise parce qu'elle est ta sœur, mais moi, je prends pas la femme de quelqu'un, donc je la veux pas. Il est pas en train de se plier, et dire, bah, à cause des Negaïm, ça me fait tellement de problèmes que je suis obligé de céder contre mon gré. Non, je la renvoie, je la veux pas. Et c'est pour ça que, en fait, tout ce qu'Abraham avait reçu comme cadeau, Paro ne les a pas repris. Il a laissé les cadeaux, pour bien montrer que c'est moi qui la veux pas, je ne veux pas m'occuper des cadeaux, etc. Rien du tout. Je suis au-dessus de tout ça.
La notoriété d'Abraham était reconnue auprès de Paro.
Comme un chacham, oui.
Il était reconnu
comme un sage, oui. En fait, il y a un midrash qui dit que quand on dit dans le verset que il a il a frappé Al-Dvar Sarai à cause de la parole de Sarah, la femme d'Abraham. Alors, il y a un midrash qui dit qu'en réalité Sarah n'a jamais accepté la demande d'Abraham, elle n'était pas prête à dire un mensonge. Donc elle s'est tue. Lui, il a dit, c'est ma sœur. Elle n'a pas contredit. Elle s'est tue. Même quand elle a rien dit, même quand elle a été enlevée, elle n'a rien dit. Mais lorsque, quand il a été frappé par tous ses plaies, il l'a pressé de dire la vérité, elle a reconnu qu'elle était l'épouse d'Abraham. Et c'est cette parole de Sarah qui lui a expliqué. C'est cette parole de Sarah qui lui a expliqué ce qui lui arrivait à Paro. C'est elle qui lui a dit, c'est parce que je suis la femme d'Abraham qui t'arrive ce qui t'arrive ici. Alvar Sarai qui lui a dit qu'elle était chez Avraham. Ce qui est intéressant, c'est que, comme vous savez, Avraham, il va refaire le coup. Quand il va arriver dans le pays des Philistins, il y a Avimelech, qui est c'est le même sur les rois égyptiens, ils s'appellent Paro, et les rois philistins, ils s'appellent Avimelech. Et Avimelech, c'est la même chose. Il voit Sarah, il la prend. Et à ce moment-là, il y a un dialogue, et à ce moment-là, à Avimelech, Avraham va lui répondre. Il ne va pas laisser. Ah, Paro, il n'a pas osé répondre. Il a pensé que c'était trop dangereux de répondre. Il a laissé Paro lui. L'accabler de reproches, en fait. Tu n'aurais pas dû, tu m'as fait. Ok, j'ai mal fait. Il a laissé. Il a pas. Paro, c'était trop difficile, trop dangereux, probablement. Et par contre. Par contre, chez Avimelech, qui est plus agréable que Paro ne l'était à l'égard d'Abraham, Avimelech, quand Avimelech a aussi pris Sarah, et il a aussi fait le reproche pour que tu racontes qu'elle est ta sœur, etc. Après, il lui a expliqué qu'Abraham lui a dit, mais quand quelqu'un il arrive, on ne lui demande pas, dis-moi cette femme, c'est ta sœur, ton épouse, etc. C'est pas des questions qu'on pose, quoi. C'est pas. Est-ce que je peux te la prendre, quoi, quelque part? C'est pas convenable. C'est comme ça qu'il lui a répondu. Avec Paro, il a rien dit. Il m'a posé aussi la question. Il m'a demandé, c'est ta sœur ou ta femme? Alors, Paro a renvoyé finalement Avraham avec une escorte. Parce qu'il a compris que maintenant que cette femme est très très belle, elle est toujours aussi belle, et maintenant les officiers, ils n'ont pas peur de Paro, puisque Paro ne la veut pas. Tu ne la veux pas, ben nous on peut peut-être la prendre. Alors Paro lui a accordé une escorte, il a fait sortir d'Égypte jusqu'à ce qu'il soit hors de portée des officiers de Paro. Alors, certains disent que, du coup, c'est toute la trace. C'est-à-dire, Abraham est descendu en Égypte et il est remonté. Toute la trajectoire, il est sorti d'Égypte. Donc, c'est vrai qu'on est descendu peut-être à cause de lui, mais il a fabriqué la route avec le retour en Eretz Canaan aussi. La descente en Égypte, puis l'esclavage, la libération et le retour en Eretz Israël. Donc on peut le voir ou bien en disant c'est de sa faute, Birlam, on n'avait pas besoin de descendre en Égypte, si, comme dira Ramban, si tu n'avais pas fait ça, on ne serait pas descendu en Égypte. Maintenant, s'il faut descendre en Égypte, alors on va suivre le chemin. Il a fait le chemin, Abraham, de retour aussi, et en sécurité en quelque sorte, puisqu'il a été protégé. Certains veulent même dire que Paro, quand il a renvoyé Abraham, il a laissé Abraham couvert de cadeaux. Et quand Paro va renvoyer les Bnei Israël pour sortir de l'Égypte, il va aussi les couvrir de cadeaux. Il y a un midrash. C'est avec ces cadeaux que les Bnei Israël ont pu construire le Beth Amikdash. D'où est-ce qu'ils avaient ces trésors? Cet or, cet argent, etc., et ces soieries, et ces tentures, etc. Où ils avaient, ça?
C'est pas Pharaon qui l'aura.
Pharaon l'aura, il l'a couvert de cadeaux.
Ils ont pris?
Non, il y a une chose, il y a ce que Pharaon a donné. À part ça, il y a une autre explication qui tient pas compte de celle-là tellement, ou bien on a besoin des deux, c'est que, à ce moment-là, il y a eu cette histoire de On a demandé, ils n'ont pas pris, mais ils ont demandé En réalité, quand on regarde la chose là-bas, bon, on va s'arrêter là, je vous dis encore ça, le Gaon, il dit, là-bas c'est marqué qu'une femme va demander à sa voisine, mais c'est l'expression là-bas, Isha le Reuta. Reuta, c'est le féminin de Réa. Réa, c'est Véhafta le Réacha Kamocha, ton prochain. On dit le Gaon, jamais dans la Torah, Réa ou Reuta, ça peut faire référence à un non-juif. Le non-juif, c'est pas le prochain du juif. Parce qu'on n'a pas les mitzvot ensemble. Donc, dit le Gaon, quand on dit qu'ils ont demandé à leur voisine, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Le Gaon dit, ce qui s'est passé, c'est que les juifs, entre eux, se sont empruntés les choses. Et les goïms qui étaient admiratifs à ce moment-là, des juifs et qui craignaient un peu Moshe et tout, parce qu'il y a tout le pouvoir de Moshe, ils se sont dit, ben nous aussi on va le faire. Et ils ont aussi prêté les choses aux notrices femmes. Mais c'est pas qu'on leur a demandé. On voulait pas demander et c'est pas elle la prochaine. Le prochain c'est entre eux. Ils ont créé un climat de générosité et les goïms ont voulu en être aussi en quelque sorte. Et ils ont donné, effectivement on n'a jamais remboursé. Et dans la Gemara, c'est marqué qu'à un moment donné, au temps du roi Alexandre le Grand, les Égyptiens, ils sont venus réclamer, comme il était le maître du monde, en quelque sorte, de ce monde-là, ils sont venus réclamer chez Alexandre, ils ont dit, voilà, les Juifs, ils nous ont emprunté des tonnes d'or et d'argent, et ils ne nous ont jamais remboursé. Donc maintenant, nous, on veut être payés. On veut être payés, on veut la terre d'Israël. Les Juifs n'ont évidemment pas de quoi payer aujourd'hui tout ce qu'ils nous doivent. Alors, on veut la terre. On veut être Israël. Alors, Alexandre a convoqué les Juifs. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors, ils ont dit, ben, donnez-nous 3 jours de réfléchir. Et ils ont commencé à réfléchir. Et dans l'assemblée en question, il y en avait un, il y avait un petit jeune, relativement petit jeune, qui a dit, écoutez, laissez-moi aller discuter avec eux. Si je réussis, inématov, très bien. Et si je réussis pas, vous pourrez toujours dire, mais ce petit gosse, là, ce petit jeune, là, il n'y connaît rien du tout, il n'était pas habilité à négocier, etc. C'est nous qui allons négocier. Vous n'avez rien à perdre à ce que j'y aille, vous pourrez toujours dire que je ne savais pas ce que je faisais. Que j'étais pas habilité à négocier. Alors il est allé et il a demandé aux Égyptiens, sur quoi vous vous basez pour dire qu'on vous a emprunté tellement de choses? Il dit, on se base sur la Torah. Alors, il dit, ah bon? Bon, ben alors je me baserai aussi sur la Torah. D'accord. Et il a dit, donc dans la Torah, il est écrit qu'on était esclaves pendant 430 ans et en Égypte, ça fait tant et tant d'heures, à tant et tant de, etc. Donc vous restez nous devoir. Bon, ils sont partis. Parce que dans la Torah, c'est marqué 430, mais on n'a jamais été 430 ans en Égypte, et on n'a jamais été même 210 ans en esclavage. Oui. Et donc, ça fait évidemment pas tout ça, mais comme il fait comme si c'était une concession. Ok, vous utilisez la Torah. Bon, je vais utiliser aussi la Torah.
Travailler plus pour les mémoires. Merci.